RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Méliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Je vous dirai pas le temps qu'il fait parce que vous avez qu'à regarder par votre fenêtre. Maintenant, vous ouvrez les volets s'ils sont pas encore ouverts pour voir. Hein. Ben oui. Hein. Je vois pas comment vous pourriez voir au travers. À moins que vous ayez vu la météo à la télé. Parce qu'il la passe toutes les demi-heures, la météo. C'est tellement changeant, la météo. C'est un peu comme les politiques. Ça change sans arrêt. Alors là, je vais vous parler de mon ami, mon regretté ami, Bernard Cherba, figurez-vous. Artiste, musicien, pianiste, professeur de piano. Dans toute la Dordogne, il avait des élèves. Mais en plus, il écrivait. Alors, il fut aussi le président d'un club qui s'appelait le quai, comme un quai de métro, comme un quai de port. Voilà. Et il faisait un peu tout, des expositions d'artistes, des chroniques. Et là, je vais vous lire une de ses chroniques qu'il a fait à la sortie de mon livre que j'avais fait pour Jean Boussuge. Bon, il y a beaucoup qui l'ont vu, ce livre, hein, parce qu'il était tellement connu, Jeannot, que beaucoup de gens ont acheté ce livre. La preuve, c'est que la souscription a payé l'imprimeur. Vous voyez ? Donc c'est rare. Hein. Et alors, il a appelé ça « Discours chronique » à l'occasion de la sortie du livre « Momo sur Jeannot ». Monsieur le poète du Coderre, monsieur le président, mesdames et messieurs, ce fut par un hiver rude dans la steppe sibérienne que les Cosaques bivouaquaient autour d'un feu en avalant de la potchitchka que mon frère Karl Marcichovitch me dit, je cite, « Il est capital que tu retrouves mon capital dans la capitale. » Voilà. Alors, je décidais donc fraternellement de me rendre à Saint-Péribourg. Et oui, vous savez, Péribourg, c'est juste à côté de Berlin. Hein, parce qu'il y a Berlin-Bourg. Hein, et puis il y a Perlarbourg. Ben, des bourgs, il y en a partout, des bourgs. Hein, et de sacrés bougres. Alors là, ça ne fait pas partie de la chronique. Bon, je reprends la chronique. Accompagné d'un moine défroqué, que tous appellent tendrement Petit Père Igor, je traversais donc toute l'Europe, muni de boîtes de cornichons et de quelques bouteilles de Punchinskaya, afin de rejoindre l'endroit où mon frère Karl Marcinovitch avait oublié ses feuillets suite à une soirée glorifiant la Punchinskaya. Je pense que ça, c'est une boisson, certainement, hein. Un peu comme la vodka, d'ailleurs, c'est peut-être la marque d'une vodka. Hein. Bon. Comme je ne sais pas, parce qu'il était d'origine polonaise et ukrainienne. Vous voyez, hein, il avait les deux, lui. Prévenu de mon arrivée imminente, mes sœurs et mes frères, du 1-8 place du 8 mai, me firent un accueil triomphal. Nous mangeâmes mes derniers cornichons et bûmes ce que mon frère nous avait laissé de Puchinkana. Mais, là, mon cher Jeannot, mon cher Momo, monsieur le poète et du colère, monsieur le président, mesdames et messieurs, mais là, rien, rien. Pas une page, pas un feuillet, ma quête n'aboutissait point, j'étais au désespoir. C'est alors qu'un médium serbo-croate, d'origine albanaise, Chirac n'a rien à voir là-dedans, m'apprit qu'il existait un groupe de poètes débauchés, amateurs de Puchinskaya, qui pourraient me renseigner. Je me rendis donc dans un endroit louche, situé dans un quartier encore plus douche que Saint-Péribourg, appelé les Hydro-Pétoff, dans la traduction française. Si tu as vent d'un poète, je te prends pas la tête. Ce jour-là, je fis la connaissance de Jeannot et Momo. Certes, me direz-vous, mesdames et messieurs, j'aurais pu tout aussi bien faire connaissance de Coco et Roro. Eh bien non, je fis vraiment la connaissance de Jeannot et Momo. Ceux-ci, sensibles à ma quête, me présentèrent quelques ouvrages susceptibles de remplacer le capital sur lequel mon frère Karl Marcinkiewicz avait beaucoup épargné. Je consultai donc la Bezjazlinski, le Alardovitch, le Alafonov, le poème sur les filles de Roubaumnium et autres Boulazac, terre d'amitié, mais point de capital. Et pourtant, mesdames et messieurs, ce jour-là, Jeannot et Momo, qui, si vous les observez bien, ne sont point de grands consommateurs de Puchinskaya, mais de Rapoustinskaya. D'ailleurs, à capitaliser ma quête. Mes amis, c'est ce soir pour moi un honneur et un bonheur que je vais vous lire ce discours, ou plutôt cette débauche de stupidité, car je voulais en fait vous dire que j'admire votre courage. En effet, c'est grâce à votre courage, à votre pugnacité, à votre ténacité, vous les hydropathes, qu'apparaît aujourd'hui une nouvelle génération de poètes et de poétesses. C'est grâce à des personnalités telles que les vôtres que les jeunes n'ont plus peur de passer pour des ringards en écrivant quelques alexandrins. C'est grâce également aux irréductibles que vous êtes si la poésie est devenue le phénomène de mode. Vous avez persévéré et vous en serez récompensé. Enfin, et surtout, c'est grâce à vous que si j'ai retrouvé le capital. Le capital d'être soi, le capital de laisser parler son cœur. Bref, en fait, et le capital de parler d'amour. Et c'est pour cela, mes amis, chers Jeannot, chers Momo, chers hydropathes, que je permets ce soir de vous déclamer ce poème en une seule ligne, en trois mots. Je vous aime. Voilà. C'est pas beau, ça? Et alors, pour vous expliquer qui était ce monsieur, vous allez l'écouter au piano. Voilà qui était ce monsieur. Vous avez une idée de ce qu'il représente, donc. Hein. Non seulement, bon, il avait la plume facile, mais le doigté facile sur le piano, hein, sur les touches du piano. Alors, en plus, il ne jouait que ce qu'il composait. Sauf quand il faisait le professeur de piano, naturellement, il apprenait à ses élèves plein de belles musiques classiques, même un peu jazzy, ça dépendait. Et quand ma femme l'a utilisé comme prof, non seulement il était ami, hein, il venait manger à la maison, tout ça, mais il était aussi le prof de Ghislaine, il lui a fait aimer les nocturnes de Chopin. Et elle jouait après les nocturnes de Chopin super bien. J'en ai enregistré quelques-unes, mais je n'avais pas un très bon enregistreur, ce qui fait que c'est pas véridique ce que j'ai. Alors moi je les écoute parce que je sais que c'est ma femme qui les a tapés, mais je passerai pas à la radio parce que c'est pas de bonne qualité, vous voyez, hein. Mais voilà, puis alors il faisait aimer des grands musiciens, des grands compositeurs, hein. Il était doué, hein, c'était vraiment. Manque de peau, il est mort très jeune d'un cancer à 50 ans. C'est pas possible. On devrait pas arriver à ces choses-là. Les mecs comme ça, mais ça devrait être éternel. Quoi qu'il le devient, quelque part, la preuve, hein, puisque je parle de lui. Et on parlera encore longtemps de lui. Hein. C'est ça qui est bien. Vous vous rendez compte, moi, si je meurs à 120 ans, vous allez dans 300 ans, vous parlerez encore de moi. Oh, Je sens que mes cendres vont bouillir, vont se retourner dans leur urne, ils vont exploser, ils vont sortir. Je me le promets que je vais exploser dans l'urne, si jamais j'entends parler de moi. D'accord ? Bon. Alors, je viens d'ouvrir. Alors là, c'est un moment, comment je pourrais dire, exceptionnel. Vraiment, je n'ai jamais vu. D'abord, vous ne pourrez pas le voir. Je viens d'ouvrir mon deuxième tome de Balade politique au travers d'un prévert. Je l'ai reçu hier, j'en ai fait faire qu'un seul exemplaire. Parce que vous serez privé de ce... Il est que pour moi. Par contre, vous pourrez l'entendre à la radio, à mon émission. Ah non, n'essayez pas de l'acheter, hein. Vous ne pourrez pas, hein. Il n'y en a qu'un seul exemplaire. Mais non, vous allez voir, je vais en faire tirer un peu plus comme ça pour aller chez les libraires le chercher. Je vous dirai dans quel libraire, parce que j'en mets pas partout. Hein. Ah non, il y a des libraires qui sont un peu chiants quand même. Hein. Normalement, ils nous prennent 30% sur les ventes. Et il y en a, ce salaud, il prend 31%. Vous vous rendez compte ? La peau de vache ? Hein ? C'est honteux de voir ça. Alors, qui c'est qui fait le plus gros boulot ? C'est quand même celui qui écrit. Hein ? Et puis après, c'est l'imprimeur. Eh ben non, c'est le libraire qui en prend le plus. C'est pas normal, ça. Hein ? Bon, enfin, tant pis. Alors, j'ouvre la page 81, parce qu'il a quand même 124 pages, ce livre. Hein. 124 pages de ma matière grise dedans. Hein. Mais j'ai fait sur des pages blanches, hein, pas des pages grises. Alors, figurez-vous que moi, je revendique. Il faut que la sieste soit vraiment enfin reconnue comme un patrimoine mondial. Vous vous rendez compte ? Mais tout le monde fait la sieste dans le monde entier. Alors que les sept merveilles du monde... Il y a une merveille à tel endroit, une autre merveille à l'autre endroit. Mais il n'y en a pas partout dans le monde, des merveilles. Hein ? Des femmes merveilleuses, oui. Mais des hommes merveilleux, un peu moins quand même. C'est rare. C'est rare. Alors, je vais vous lire ça. Alors, bon, bien sûr, ça fut écrit en 2019. Hein ? Ben oui. Parce qu'il fallait le temps d'imprimer quand même, hein, 2019, 2024. Il faut 5 ans pour imprimer un bouquin comme ça. Hein ? Allez. Comme les sept merveilles du monde, cela fera 8. Voilà. La sieste est un acte social comme les allocations familiales ainsi que l'allocation logement. Et comment faire la sieste sans logement ? Dehors, par moins 20 degrés ou par 45 à l'ombre ? D'un sombrero ? Voulez-vous siester avec moi ? Qui disait à une femelle en chaleur. Car de tout temps, la sieste cochonne existait depuis la préhistoire et bien avant le dinosaure Étilicus qui confondait sieste et percolateur. Et oui. Puis arriva les Gaulois et les Gaulois sans filtre. Donc, nus et gaudriolants, de l'heure, bien à eux et jusqu'à celle des autres. Et les uns arrivèrent avant les autres, qui ne dormaient pas, les yeux fermés, à cause des mouches qui leur piquaient les fesses, parce qu'ils siestaient tout nus, comme dit auparavant. Mais, attendez que je tourne la page, parce qu'il y a plusieurs pages à mon livre, hein, je vous l'ai dit. Non, ils ne se cachaient pas derrière, auparavant, car dans les HLM troglodytes, par cœur, il n'y avait pas de vent, sauf parfois des flatulences. Mais les flatulences saines et propres par derrière. Revenons à ce nouveau patrimoine mondial. Il faut savoir que la sieste n'est pas faite seulement que pour les riches bourgeois, mais aussi pour les oisifs, qui ne savent pas quoi faire de leurs 9 doigts, car le 10e décrotte les larines élargies par le besoin de la vidange, des naseaux et des pieds de nez, qui sont adressés aux bourgeois afin de bâiller avant de s'allonger, et qui parfois deviennent une sieste crapuleuse, selon l'état et l'envie de la bourgeoise. En général, cela est perceptible selon la position de celle-ci. Mais restons dans la perspective d'une sieste calme et réparatrice. N'anticipons pas, ce ne sachant pas comment la bourgeoisie copule et combien de fois par sieste. Après, vous allez me dire, oui, mais c'est ça, cela ne nous regarde pas. Bien sûr, comme disait Thierry Roland, un chroniqueur sportif. Les vieux comme moi, ils sont au courant, hein, comme on disait ça. Mais ça ne nous regarde pas. Mais si, car si les bourgeois font plus d'enfants que le commun des mortels, il ne sera pas assez de sieste pour les pauvres et les oisifs. À calculer. S'il n'y a plus que des bourgeois, hein, les pauvres, comme il y en aura moins, ils feront moins de sieste. Ben oui. Hein. C'est une question de pourcentage. Hein. Et le 8e patrimoine mondial sera réservé seulement aux riches et à leurs copains, les capitalistes, qui, eux, ne font jamais rien avec leurs 9 doigts. Moralité. Il n'y en a jamais dans ces cas-là, car du chacun pour soi-même, avec le 10e doigt ou la langue de bois dans la narine de droite. Voilà. Alors je suis en photo, et il y a le soleil qui éclaire mon ventre. Je suis allongé et je dors. Hein. Alors c'est la visite d'un dieu pas très catholique pendant la sieste, figurez-vous. Alors vous ne voyez pas la photo, mais essayez de voir, moi, comme ça, mon ventre qui qui est presque plus haut que ma tête, allongé dans le lit, hein, bien sûr. Et puis, un rayon de soleil qui arrive sur le ventre. Vous vous rendez compte? Un peu comme une radiographie. Sauf que moi, il n'y avait pas un fœtus. Hein. Non, dedans, c'était des boyaux bien remplis. Hein, avec de la graisse, avec de la viande, avec des frites. Au fait, mamie, n'oublie pas mes frites, hein, tout à l'heure. Hein. Bon, allez. Bon, allez. On va passer à autre chose, quand même. Hein. Pas toujours moi, bon. Hein. Tiens, Jean-Claude Lemoine. Il ne pas de son état aussi, lui. Alors, il a appelé un poème « Oxygène ». Et ce poème a été fait en 1981 au Gabon. Allez, je t'aime. SOS sauvetage, la forêt m'engloutit. La forêt me digère, sur moi. Grimace des branches, étrangle les lianes, morde les épines. Devant moi, ricanent les pieds crevassés, les fantastiques troncs, je t'aime. À midi, quand le soleil s'infiltre, à midi, quand ronfle les crapauds. Moi, en général, je ronfle à la sieste et la nuit. Les crapauds, c'est à midi. Bon, pourquoi pas, après tout. Hein. Et puis, ils ont le droit de faire la sieste aussi, eux. Ils font partie du patrimoine mondial. Enfin, leur sieste, bien sûr. Bon. Quand sifflent les guêpes, piquent les tsetse, sucent les fourrous, sifflent, piquent, sucent. Ma sœur, mon sang, ma sœur sans couleur, SOS sauvetage. Les lianes tranchées pleurent rouges, de vieux troncs s'abattent avec fracas. La chute des feuilles, des brindilles, crépite sur l'humus, martèle. Des bruits, partout inconnus, de la mousse, de l'insecte, des mandibules invisibles. Puis broie, décompose, qui me décompose, la forêt m'engloutit et m'engourdit. Me noie, me végétalise, je t'aime, SOS sauvage, nègre des styles, au simple rire humide que j'entends de ta machette, que me rassure ton odeur, chasse, chasse l'épaisse forêt, ouvre ton ventre mou. À pleine calebasse, buvons l'oxygène au vin de palme, buvons, rions, dansons. L'insidieuse peur, l'étouffement sournois, l'oppressante torpeur, à tout jamais refoulé par la chaleur humaine. Gabon. Alors c'est à Mayounba. Mayounba, ouais, voilà. C'est beau. Bah bon, il a fait le tour du monde, ce monsieur, hein, en tant que ingénieur agronome. Il a aidé tous les pays qui avaient des difficultés au niveau de l'agriculture. Hein. Bon. Il faut trouver des engrais naturels en fonction des pays. Ce qui est chouette, d'ailleurs. Alors, pour une fois, je vais laisser à mon technicien préféré le choix de la musique ou du chant qu'on va passer.
Et oui, parce que Maurice a oublié, enfin, n'a pas oublié sa clé, mais elle ne fonctionne pas.
Voilà.
Alors, ce sera Aretha Franklin avec Call Me.
Taking me.
Alors, chers amis, alors je vais peut-être vous faire découvrir un poète. Bon, il n'est pas tout jeune, hein, je ne sais même pas s'il est encore vivant, figurez-vous. Guy Élie Pratt, très connu sur Périgueux. C'était lui qui faisait souvent, qui distribuait les affiches de spectacles dans tout Périgueux, chez les commerçants, enfin, partout. Et il a écrit des bouquins de poésie, bien sûr. Et j'en ai un, ça, donc, le titre c'est « Tous les temps d'hiver ». Et le poème s'appelle « Le veilleur de nuit ». Tu semblais dormir dans un train de banlieue, dans le compartiment faiblement éclairé. La veilleuse à flamme bleue tamisait la lumière comme un vitrail. Jetait sa couleur délavée, à moitié ivre, dans ton cœur chaviré. Le cendrier débordait de ton ennui. Tabac, gris et blanc, réunis. Oui, parce qu'à l'époque, dans les trains, on avait le droit de fumer. Il y avait des cendriers. Maintenant, naturellement, c'est interdit. Bah, c'est vrai que quand vous aviez des fumeurs de pipe qui envahissaient tout le wagon, je vous dis pas, hein. Parce que ce n'était pas des petites cabines de 8 places, hein. Il y avait comme les nouveaux trains maintenant, hein. C'est-à-dire c'est des grands wagons, enfin, il n'y avait pas de cloison, on va dire. Hein. Allez, je continue, réunis. La vitre reflétait la silhouette d'une tête pointue. L'ombre du dehors la tutoyait. La nuit affamée gourmandait la campagne. Dans le compartiment, même l'on sentait les arômes de la nuit comme on sentait le rhum de ta bouche grande ouverte. Silencieuse, une lune rousse à l'humeur vagabonde éclairait ton visage anonyme. Tes yeux clignotaient, puis se fermaient. Je me suggérais alors de ne pas aller te réveiller, de te veiller simplement. Voilà, c'est beau, hein ? C'est beau. Alors, je vais vous lire tout de suite un autre, parce que bon, on ne va pas rester sur notre faim comme ça. Hein. Surtout, c'est la première fois. En tout cas, depuis 10 ans que je lis ces poèmes, hein, alors que je les avais, ces bouquins. Reflet. Autre stature des HLM, aux multiples yeux, indifférents, tour aux mâchoires, carnivores, engendrant les méfaits, des hommes innocents et coupables à la fois, de n'être pas eux-mêmes dans les décombres de leur âme, déchirés par des doigts tentaculaires, lesquels, fouillant des immensides, font l'inventaire des morales aux vives lueurs intolérantes, dignes reflets d'un monde dont les bibliothèques ploient sous le néant. Les lunettes sur le plancher de ma chambre se remplissent de nuages et d'oiseaux sauvages. Tout le chagrin des jours de pluie est devenu cœur perdu et brille de douces larmes. Tes yeux noirs ont enserré ma nuque. Les souvenirs sont faits de prières dans ma mémoire. Mes mains sont des tournesols qui te cherchent encore. Voilà, c'est beau, hein ? Oh ! Je vous en lirai d'autres parce qu'il y a 2 bouquins de lui, hein, que j'ai retrouvés dans mon... Oh, incroyable. Je cherchais un bouquin dans mes 5000 livres. Je ne l'ai toujours pas trouvé. Par contre, comme c'est un bouquin que j'avais fait pour un copain qui m'avait demandé de lui faire la mise en page, j'ai retrouvé le fichier numérique. Et dans le coup, bah, on a pu demander un devis à partir du fichier numérique plutôt que du bouquin. Bon, je le retrouverai bien un jour. Non, ne vous inquiétez pas. Tiens, on va passer à Jeannot. On en avait parlé tout à l'heure de Jeannot déjà. Il nous reste encore beaucoup de temps, là. 4 minutes. Bon, j'ai le temps de lire ce poème-là, alors. Alors, le grand colon de Jeannot et la barrette de trop. Le grand colon en voulait au capitaine, malgré l'envie de décommander cette vessie enflée. Bon, il avait une hernie comme un petit ballon de handball. Hein. Quand, avec son toubib, on l'a obligé à se faire opérer. Hein. Il serait resté avec ça toute sa vie. Hein. Alors, il aurait été obligé de mettre un filet pour tenir. Hein. Allez, le trafiquant de hernie avait mis sa main gantée de latex au bon endroit pour mieux faire fléchir le colon vers une retraite enfin méritée. Puis, avec dextérité, le général prit part au festin en déclarant une guerre intestine aux troufions de basse classe. Le retournement du grand colon et de ses boyaux récalcitrants lui fit faire un tour à gauche au général pourvu d'étoiles et de médailles mal accrochées sur un grillage prothésé. Un grillage prothésé, c'est-à-dire c'est une prothèse qu'on met sur la poitrine pour accrocher les médailles, vous voyez, hein. Moi, on m'a pas mis ça parce que j'ai qu'une seule médaille. Hein. Bon. Et oui, j'ai l'Ordre national du mérite, parce que j'étais méritant, voilà. Méritant, c'est pas un métier, hein. C'est une, je sais pas, bon, méritant, bon, ben, c'est un verbe, voilà, tout simplement. Allez, on continue. Le théâtre des opérations, pris pour alibi l'intestin, qui était si grêle qu'il forniqua avec le colon tout juste sorti de ses gonds. La troupe tapit dans les boyaux nettoyés remarquablement par un adjudant et un lieutenant pour dire en quête de laxatif, décida de ne pas en remettre une couche malgré la venue du président dans cette Corse profonde et attirante qui se cherchait une image positive depuis le succès de son érection à la législature subliminale contre la gazelle délaissée et reprise de justesse par un sous-lieutenant par la main. Jean, pris pour argent comptant la CMU et ses restes bien conservés, qui lui assuraient l'impunité jusqu'à la Saint-Guinglain en 2008, et le pétrole Anne en prime d'assurance. Sur ce parcours mal assuré, le juteux de service prit la décision de mettre Jean au trou. Ah, la trou, y tout, où ? Et comme toujours, le trou fut remarquable à l'arrivée de Jean, le poète, puisqu'il s'ouvrit avec élégance, en lui souhaitant bonne arrivée. Alors le mot bonne arrivée, c'est les gens du Burkina Faso, au lieu de vous dire bonjour, quand vous arrivez chez eux, ils disent bonne arrivée. Malgré le bruit incongru que celui-ci fit, par un départ précipité. Depuis, le marmiton de la cantine cherchait des noises afin d'en offrir les meilleures à ce Jean du Coderre dans la marmite de l'armée d'une Algérie paniquée de tout. Parce qu'il a fait la guerre d'Algérie pendant 36 mois. Jean comprit que la guerre était si sale qu'il s'en lava les doigts de pied dans les hôpitaux de campagne. Puis vint le rapatriement des ongles incarnés. Jean reprit la poste en horreur malgré un tri prématuré avec cette fameuse tournée de part en barre de l'oblitéré. Alors, il était à Chamiers. Il faisait le postier à Paris. Et après, il a été muté à Périgueux et il faisait sa tournée à Chamiers. Donc, chez nous, là. Vous voyez, on est à Chamiers, nous. Hein. Peut-être qu'il a apporté des courriers à l'ancien gardien où il y a les studios, maintenant. Hein, peut-être. Hein. Bon, on ne pourra pas lui demander, plus là. Jean, le débauché du service de nuit, remplissait les bars de ses beaux sous gagné au jackpot des PTT, et invita des Brassens et des Brel à chanter tout l'été. Ce fut le Léo qui, à peine ferré de fer, neuf fit la tête à Jeannot en lui offrant son plus beau mauvais profil d'anard mal mouché. Mais le Jeannot, à peine remis de ses émotions, mit Léo dans un placard de son indifférence un double tour du cadenas. Ce qui ne nous dit toujours pas ce qu'est devenu le grand colon et ses décorations. Alors, oui, parce que lui, il a eu les palmes académiques pour son œuvre poétique de 5000 poèmes, vous en êtes compte. Alors, bon, après quelques recherches que Jeannot mena le long des martingales de certains officiers, il comprit que le colon n'était pas une petite cheftaine, qu'une petite cheftaine qui avait gagné ses galons à la foire du trône en période d'orage. Jean se contenta de cette version afin de ne pas faire de vagues dans cet intestin si contesté par des repas mal appropriés. Depuis son retour, Jeannot s'offre des carottes qui ont dérapé et de la semoule qui patauge dans ses souliers troués. Mais comme un conte absurde ne va pas sans son petit frère, je vous raconterai plus tard l'histoire d'un poète qui se prend d'abord pour Napoléon et toujours en premier. Voilà, vous voyez, hein ? Alors oui, c'est un conte, hein, c'est pratiquement un conte. Hein. Bon, dans le coup, je vous dis au revoir parce que y a ma amie qui m'attend. Elle m'a dit « Dépêche-toi, les frites vont être trop cuites ». Bon, allez, alors j'y vais vite. Allez, à bientôt.